Vivre FM, ça déménage.
Podcast.
Au plus près de la recherche, jusqu'à 11h sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Pas facile de réussir sa scolarité ni de réaliser les études que l'on souhaite. Pas facile non plus de trouver sa voie dans le monde professionnel. Parfois d'ailleurs, on ne sait même pas ce que l'on veut faire de sa vie. Et dans tous les cas, des premiers pas à l'école jusqu'à l'exercice d'un emploi, il y a des étapes à franchir et ce n'est généralement pas simple. Et pour certaines personnes, c'est même très compliqué. Pour toutes celles et ceux qui, à ce moment de leur vie, se retrouvent avec un handicap, scolarité, formation et accès à l'emploi peuvent s'avérer être un véritable parcours du combattant. Alors, comment se passe ou pas l'accès à l'autonomie pour les jeunes adultes en situation de handicap? C'est le sujet du jour dans Au plus près de la recherche, une émission réalisée, je le rappelle, en partenariat avec la FIRA et grâce au soutien de l'OCIR. David Sauzet, sociologue chargé de recherche, et Marie-Pierre Touban, coordinatrice générale de Droit au Savoir, sont nos deux invités du jour dans Au plus près de la recherche. Alors, Droit au Savoir, c'est une association nationale pour le droit au savoir et à l'insertion professionnelle des jeunes personnes handicapées. Vous êtes tous les deux en lien avec l'association. On va tout de suite en dire un mot. Quelle est sa raison d'être, peut-être, avec vous, Marie-Pierre ?
Oui, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Droit au savoir, c'est effectivement un collectif interassociatif interhandicap de 32 organisations qui vise à promouvoir la poursuite d'études et l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap de plus de 16 ans, hein, c'est-à-dire au-delà de l'âge de la scolarité obligatoire, dans toutes les dimensions des jeunes. Hein, c'est-à-dire qu'on va pas être dans une logique où on les saucissonne, où on les prend sur un aspect de leur vie, par exemple la scolarité, par exemple l'orientation, par exemple les transports. On va vraiment travailler à la globalité de leurs attentes, de leurs besoins et des réponses à construire pour évidemment faciliter les parcours de formation jusqu'à l'insertion professionnelle.
Alors David Sauzet, bonjour aussi.
Bonjour.
Je le disais à l'instant, vous êtes sociologue, mais en lien, et vous êtes ici parce que vous travaillez en lien avec l'association Droit au Savoir.
Oui, tout à fait. Donc j'ai été recruté il y a quelques mois maintenant, plus particulièrement par le conseil scientifique de Droit au Savoir, pour réaliser, dans un premier temps, une revue de littérature sur un sujet assez vaste, qui est les effets psychiques et le passage à l'âge adulte pour les jeunes en situation de handicap de plus de 16 ans.
Les effets psychiques du passage à l'âge adulte et de l'accès vers l'autonomie des jeunes en situation de handicap. On va en parler évidemment dans un instant dans cette émission de cette revue de littérature et de ces recherches que vous faites. Sur l'association Droit au Savoir, est-ce que c'est récent, pas récent, et est-ce que finalement c'est si compliqué que ça? Il y a vraiment, je m'en demandais tout à l'heure la raison d'être, c'est important aujourd'hui d'avoir ce type d'association?
Alors, pour l'association, déjà, ce qui fait sa spécificité, c'est le fait qu'on soit dans une logique inter-handicap et inter-associative, qui n'est jamais quelque chose de tout à fait simple et évident dans le monde associatif, de quel que ce soit le sujet qu'on traite. On est aujourd'hui confronté à un certain nombre de problématiques nouvelles liées à l'évolution de la scolarisation des jeunes en situation de handicap, liées au fait qu'ils ne veulent plus être cantonnés sur un seul champ, mais bien avoir accès à l'ensemble des champs. Je pense par exemple sur les questions des étudiants, il y a évidemment la poursuite d'études, comment est-ce qu'on aménage les cours, comment est-ce qu'on aménage, on adapte les examens par exemple, mais il va y avoir aussi ces problématiques qui ont toujours existé, hein, mais qui prennent une ampleur beaucoup plus importante, comment est-ce qu'on a accès à la vie étudiante, comment est-ce qu'on fait vivre concrètement la participation sociale, la citoyenneté des jeunes en situation de handicap. Et ça, je crois que c'est lié à un double effet. Le premier effet, c'est l'augmentation, évidemment, du nombre de jeunes concernés. Et le deuxième effet, c'est aussi l'évolution des profils des jeunes concernés. Aujourd'hui, certains publics qui n'avaient pas accès à l'enseignement supérieur ces dernières années, on va dire, par exemple, arrivent. Et donc, il y a de nouveaux besoins, de nouvelles attentes. Et c'est important de pouvoir répondre à ces questions. Et puis, il existe dans les parcours de formation des ruptures et des temps de rupture importants qu'on a pu identifier, qu'on a pu cibler. Quand je parle des parcours, on va vraiment être sur le lien, je dirais, primaire, secondaire et puis insertion professionnelle et ou post-bac. La barrière des 16 ans est une barrière réelle. Il y a une barrière des 18 ans aussi. Il y a une barrière des 20 ans qui, elle, va être plutôt une barrière médico-sociale. Et puis toutes ces barrières, changement de statut, ça introduit aussi des ruptures dans l'accompagnement qui ont évidemment des incidences après sur le parcours de vie de ces jeunes. Hein, donc il y a un besoin de pouvoir travailler à construire de nouvelles réponses, à fluidifier les parcours et puis à leur permettre aussi de s'épanouir dans leur vie de jeune.
Et ce, quel que soit le type de handicap, on est d'accord que tous les deux, vous travaillez sur l'ensemble des problématiques liées à tous les handicaps. Enfin, en tout cas, vous essayez. Après, ils sont...
Alors évidemment, chaque handicap, chaque situation de handicap a ses spécificités qui lui sont propres. Mais nous, on va être dans une logique de travailler aux transversalités. Et ce qui peut être aussi assez intéressant, et on l'a vu dans des travaux antérieurs qu'on a pu mener, c'est comment est-ce que des réponses qui sont parfois très ciblées pour telle ou telle situation de handicap, quand on les présente et qu'on les explique, on se rend compte qu'elles peuvent être utiles à d'autres. Hein, et je crois que c'est aussi cette richesse-là qu'on essaye de faire valoir et de vraiment partir des besoins. Hein, et comme ça, de pouvoir travailler à des réponses qui peuvent être communes à différentes situations.
Et en tout cas, il y a des situations pour lesquelles ça marche. Et on va tout de suite écouter le témoignage de Myriam Debras. Elle a, ou Debras, je crois qu'on dit, elle a 33 ans et elle nous a raconté, en tout cas, on a gardé un extrait, un résumé de son parcours.
À la fin des études, tout s'est passé bien, sauf qu'un beau matin, j'ai eu des difficultés parce que je devais me présenter à un examen et j'y suis pas allée parce que la maladie psychique avait commencé à s'installer. Donc je suis allée directement en hôpital. Le médecin généraliste qui me connaissait a vu que j'avais quelques petits soucis. Et donc, comme tous les jeunes, une fois qu'il m'a rétablie physiquement, je me dis tout va bien. Sauf qu'il m'annonce que j'ai cette maladie psychique. Donc je me pointe à la mission locale, comme tous les jeunes de mon âge. Et je découvre que mes tests psychologiques et psychotechniques sont très médiocres. Je tombe par hasard sur la remédiation cognitive de l'hôpital Sainte-Anne. Donc j'ai suivi ce parcours pendant un an et demi. Ça m'a permis de retrouver confiance en moi. Et en parallèle, j'ai été suivie en ESAT. Donc en ESAT, on a fait un double accompagnement, même un triple accompagnement avec la neuropsychologue de l'hôpital Sainte-Anne. Déjà là, ça m'a beaucoup aidée. Alors après, en sortant de l'ESAT, j'ai trouvé une formation en apprentissage de bibliothécaire documentaliste. Donc j'ai intégré les diacones et ma formation, je le faisais à l'UFA R2K métier du numérique. C'est un chantier d'apprentissage, notamment de réinsertion et d'insertion pour des jeunes et des plus âgés. Et ensuite, j'ai enchaîné avec une année en licence professionnelle, métier de la documentation et de l'entreprise. À l'heure actuelle, je suis catalogueur à l'école des hautes études en sciences sociales.
Myriam Debras, qu'on vient d'entendre donc à l'instant, elle a cette problématique d'avoir un handicap psychique, un handicap invisible. Et à un moment, elle me racontait qu'elle était parfois obligée de prouver finalement qu'elle avait ce handicap pour avoir de l'aide, pour recevoir de l'aide, ou pour simplement que les gens fassent preuve d'un peu de bienveillance à son égard. Est-ce qu'il y a justement des différences notoires entre les handicaps invisibles, les handicaps qui sont plus visibles à l'œil nu? Est-ce que ça, c'est une des problématiques dont vous discutez, ou en tout cas pour lesquelles vous proposez aussi des solutions?
Il y a effectivement des spécificités liées aux situations de handicap invisible. Hein. On voit bien dans l'école, que ce soit tout au long du parcours, hein, le fait effectivement de devoir prouver régulièrement avec des demandes régulières de bilan, etc., pour pouvoir avoir accès à un centre de droit. Hein, donc ça, c'est une réalité. Et puis, je dirais, il y a aussi une autre dimension qui est le regard des autres jeunes. Hein, on a souvent des témoignages, je pense à un en particulier, un jeune qui va avoir un ordinateur pour pouvoir compenser sa situation de handicap, va être montré du droit, stigmatisé par d'autres jeunes qui, eux, n'en ont pas. Hein, et il y a un besoin dans ces cas-là d'information, de sensibilisation du reste de la classe ou de l'amphithéâtre pour pouvoir expliquer pourquoi effectivement cet étudiant ou cette étudiante ou cet élève a telle ou telle aide technique, moyen de compensation qui lui est octroyé. Et ça, je dirais, tout au long de la scolarité, hein, par nature, les élèves ne sont pas forcément bienveillants, justement. Hein, donc ça, c'est aussi, je pense, un des enjeux d'information, de formation, hein, et de compréhension et qui participe effectivement au changement de regard ensuite de la société sur les personnes en situation de handicap.
Oui, alors moi je compléterais les personnes, les élèves, et les institutions aussi sont pas forcément bienveillantes. On voit que l'un des effets de la loi 2005 a été l'ouverture à la scolarisation des jeunes en situation de handicap. Et si ça apparaît comme quelque chose de comme presque allant de soi dans les petites sections, on voit que plus on avance et plus c'est compliqué. Et notamment, on a une confrontation entre la compensation du handicap, voilà, des difficultés, et une espèce de primo-mérite. C'est-à-dire que si on arrive à l'école, c'est parce qu'on a bien travaillé, c'est parce que voilà. Et ces espèces de compensations que peuvent avoir certains élèves vont venir se heurter au mérite. C'est-à-dire que de mauvais élèves, on passe à élèves ayant des difficultés, élèves ayant peut-être un handicap, voilà, étant en tout cas en situation de handicap, et les compensations vont apparaître comme quelque peu injustes vis-à-vis des autres élèves, mais aussi des enseignants. Il y a un besoin de pédagogie et de formation qui est assez importante. Et en moi donnant des cours à l'université, je vois qu'on est là dans un domaine où c'est pas du tout encore intégré dans la culture. Les élèves à besoins particuliers, quels que soient les besoins, ont beaucoup de mal à faire entendre leur particularité.
Donc vous diriez que le principal frein concernant la scolarité, la formation, l'accès à l'emploi, c'est plutôt un manque de pédagogie envers les étudiants, le corps institutionnel, enfin les institutions, ou c'est les élèves eux-mêmes qui finalement, ne voulant pas peut-être rêver à une formation ou un accès à l'emploi, se retirent d'eux-mêmes. La principale problématique, elle est où ? Parce que les solutions, on en reparlera, mais elles sont souvent finalement un peu simples. Il y a beaucoup d'adaptations qui peuvent être mises en place de façon assez simple. Et si elles ne le sont pas, du coup, voilà, c'est plutôt, on va dire, la faute des institutions qui ne sont pas assez formées à regarder l'autre pour ce qu'il est, essayer de comprendre ses problématiques.
Si on veut définir le handicap de façon sociale, c'est-à-dire que le handicap, c'est une situation dans laquelle la société n'offre pas à tout à chacun la possibilité d'avoir les mêmes droits, de façon très très large. Oui, c'est essentiellement social, mais après le social va se répercuter, nous, dans nos façons de penser, individuellement, cognitivement, les corps aussi. Le corps enseignant n'est pas en accusation, mais devant les difficultés matérielles, financières, etc., c'est sûr que l'intégration de certains étudiants, de certains lycéens, de certains collégiens est rendue plus difficile. Et du coup, c'est vrai qu'ils vont être plus facilement mis à l'écart. Et du point de vue des élèves, on est quand même dans une société qui est assez dure. Les résultats scolaires, l'attente du diplôme, les examens, c'est de la compétition. Voilà. Et effectivement, si quelqu'un arrive avec ce qui semble être un avantage, il peut être déconsidéré de la part des autres. On a d'ailleurs quelques données, des études qui ont été faites il y a quelques années, qui montraient que des lycéens avaient demandé des aménagements d'examen en première et les redemandaient pas en terminale, pas parce qu'ils n'en avaient plus besoin, mais parce que c'était insupportable et impossible à gérer pour eux.
Et peut-être pour compléter l'enjeu, c'est aussi la période de la vie de laquelle on parle. Hein. On est sur l'adolescence, la fin d'adolescence, la transition vers un monde adulte qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'anticipe pas forcément. Voilà, et donc il y a aussi des choses qui se jouent autour de ça, donc qui se jouent pour tous les jeunes par ailleurs, mais avec une incidence particulière pour les jeunes en situation de handicap, sur tout ce qui va être la construction identitaire, l'estime de soi. Bon, voilà, on est sur des choses aussi très très fortes pour ces jeunes-là.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Et nous sommes toujours avec David Sauzet, sociologue chargé de recherche, et Marie-Pierre Touban, coordinatrice générale de Droit au Savoir. On a écouté en première partie de l'émission le témoignage de Myriam Debras. Un mot encore sur Myriam, parce qu'elle, elle est quand même très, très volontaire, très débrouillarde, et on sent que ce parcours réussit, même s'il n'est pas terminé, et puis qu'elle me disait hors micro que voilà, elle va aller jusqu'au bout, et qu'elle, elle se projette justement, elle rêve, elle veut y arriver. On sent que ça va être quand même plus simple pour elle, parce qu'elle a une force intérieure, une espèce de volonté, j'imagine, tout le monde n'a pas, et je me demande si en dehors du handicap, parce que c'est vrai qu'on catégorise les handicaps, alors on a l'impression que certains sont plus difficiles que d'autres. Est-ce qu'en dehors de ça, ce qui joue énormément dans la réussite d'une scolarité, d'une formation, c'est la personnalité et la force intérieure et l'entourage un peu de ces candidats, parce que quand il y a la famille, les proches qui soutiennent, quand il y a vraiment ce soutien ou des associations, ça marche quand même beaucoup mieux que pour des gens qui ont moins accès peut-être à l'information ou qui sont peut-être plus fragiles.
Myriam a eu un parcours qui est un parcours intéressant parce que c'est pas du tout un parcours linéaire. Elle a été rattrapée entre guillemets par le handicap alors qu'elle était déjà assez âgée, jeune adulte même, on peut dire. Et elle a trouvé des soutiens assez rapidement, c'est ce qu'elle explique dans son témoignage. Et elle a un parcours fait de boucles et de reboucles pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Et effectivement, ce qu'elle dit, c'est comment est-ce qu'elle a réussi à reprendre le dessus et comment est-ce que, avec la force un petit peu, ce qu'elle dit, qu'elle a en elle, elle arrive justement à faire ce qu'elle souhaite faire. Donc, il y a évidemment les personnalités qui jouent dans les parcours, mais je dirais comme tout un chacun, comme pour tous les jeunes, les personnalités jouent. L'entourage, évidemment, est important en tant que soutien, mais aussi pour pouvoir aider à faire des choix à des moments importants de la vie, c'est aussi quelque chose d'important. Et cet entourage, il est divers. On parlait de la famille, on parlait des associations. Il y a aussi l'entourage amical ou amoureux qui peut évidemment jouer pleinement. C'est forcément l'imbrication de toutes ces dimensions qui permet à un moment donné de trouver ce qu'on a envie de faire et de réussir à y arriver.
L'enjeu de la formation, de la scolarité au-delà de l'âge obligatoire, et donc l'enjeu de la formation professionnelle pour l'accès à l'emploi, il va bien au-delà de juste, on va dire, avoir une activité pérenne qui permette de s'assumer financièrement, ce qui est déjà en soi extrêmement important. Mais il y a un enjeu qui est un enjeu d'autonomie, de citoyenneté. Et on en dirait un mot, et peut-être que c'est l'occasion de préciser que vous avez mis en place l'association Droit au Savoir, un conseil scientifique, d'où découle la revue de littérature dont David va nous parler
incessamment sous peu.
Sous peu, exactement. Et voilà, j'aimerais qu'on revienne sur cette notion autonomie, citoyenneté. C'est ça qui est au cœur et de la mise en place de ce conseil et de ces recherches et de l'accompagnement qu'on veut pour ces jeunes.
On a été confronté à un double phénomène. Le fait que du terrain remontaient des situations individuelles, mais en nombre suffisamment important pour que cela nous alerte, sur des jeunes en situation de handicap divers qui arrivaient dans le passage dans le supérieur ou au moment de l'insertion professionnelle, avaient des troubles psychiques qui prenaient le dessus sur leur situation de handicap première, on va dire. On s'est dit qu'il y avait forcément des choses qui se jouaient sur ces dimensions-là. On a été aussi à peu près dans le même temps alerté par l'enquête qui a été menée par l'UNISDA en 2010-2011 sur la détresse psychologique des personnes sourdes, malentendantes et acouphéniques. Et on a bien vu que là, effectivement, il se jouait quelque chose. Et donc, on a souhaité pouvoir travailler sur la dimension effet psychique par rapport au parcours et à l'inverse. Comment est-ce qu'à un moment donné le parcours influe aussi sur les effets psychiques dans leur dimension globale, donc aussi bien tout ce qui était positif que les effets psychiques évidemment négatifs, donc voilà, aussi bien l'épanouissement que la détresse psychologique. Et on a pour cela travaillé à construire un conseil scientifique au sein de Droit au Savoir qui permette de travailler du coup sur cette problématique transversale. On retrouve cette notion qui nous est importante et dans une logique interdisciplinaire, donc en faisant appel à la fois au sens social, au domaine de la santé, au domaine associatif dans sa diversité et puis aussi au domaine de l'enseignement qui est une part importante aussi de nos préoccupations. Donc voilà, ce conseil a été mis en place il y a à peu près un an et demi, deux ans. Et puis, on a souhaité travailler sur, plus précisément, du coup, sur une revue de littérature parce qu'on s'est dit que pour réfléchir à ces questions-là, il fallait s'appuyer sur la recherche et puis il fallait commencer par le commencement. Et le commencement, c'est justement la revue de littérature. Mais je vais laisser David la présenter parce que c'est lui qui s'en occupe au quotidien.
Alors, merci Marie-Pierre. Donc, tout d'abord, une revue de littérature, qu'est-ce que c'est ? On va essayer, dans une revue de littérature, de faire un état de l'art, un état des savoirs sur une question particulière. Alors, ici, on est dans quelque chose qui est spécial, c'est que la demande émane donc, du Conseil scientifique de droit au savoir. Alors, c'est pas moi qui ai construit, pas totalement, je reconstruis un petit peu, mais la question de départ. Et on est sur quelque chose qui est particulièrement intéressant, c'est que Droit au Savoir est interhandicap, et on va essayer, au moins dans la question, ce qui a été fait, c'est de dépasser cette essentialisation du handicap, c'est-à-dire le handicap physique aurait tel type de difficulté, le handicap cognitif tel type de difficulté, pour les considérer tous ces jeunes comme des jeunes adultes en devenir. Voilà, donc le passage adolescent, âge adulte, quel que soit le type de handicap. Et on a essayé de voir qu'est-ce qu'on avait comme données sur ces questions-là. Alors déjà, premier élément, c'est qu'on a très peu de données. Alors, donc, faudrait savoir pourquoi, explorer, etc. Mais la recherche scientifique, l'expertise, s'est très peu penchée sur ces questions du passage à l'âge adulte pour les jeunes en situation de handicap. On a quelques données, on a quelques thèses qui ont été produites, mais on n'a pas énormément de données.
Vous parlez dans la revue d'une étude pionnière sur les sourds et les malentendants, par exemple.
Alors celle-là, c'est une étude pionnière juste terminer. Donc déjà on a très très peu de données, mais ce qui nous tire, c'est justement l'enquête de l'UNISDA dont parlait Marie-Pierre, c'est-à-dire que là, ce sont des gens de terrain. Qui ont décidé, face à des remontées qu'ils avaient, de dire nous, on va visibiliser quelque chose. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est d'arriver à visibiliser une question, un problème, on peut même parler de problème. Et cette première étude de l'UNISDA a permis de montrer des taux de détresse psychique, psychologique vraiment très importantes sur cette population spécifique. Quelque chose que pouvaient connaître les professionnels et les parents, voilà, très peu le grand public. Sauf que les données qui ont été remontées étaient à des niveaux vraiment incroyables. Et à la suite de ça, les pouvoirs publics se sont quand même emparés de cette question, parce qu'on a eu quand même la création, par ce qui est maintenant Santé publique France, l'INPES à l'époque, d'un baromètre santé sourds et malentendants. La CNSA notamment a fait financer d'autres études sur l'état de santé, le mal-être psychique de cette population. Et donc, des acteurs associatifs ont pu, par le biais de la recherche qu'ils ont eux-mêmes initiée, visibiliser un problème. Et en gros, c'est un peu ce qu'on voudrait faire à droit au savoir. On fait un état assez large de la question, parce que la question de départ est quand même assez large. Effet psychique, passage à l'âge adulte, processus d'autonomisation, c'est quelque chose qui est très très large. Mais essentiellement pas pour montrer ce qui existe déjà, mais pour montrer ce qui n'existe pas encore. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de dire qu'on ne parle pas de certaines questions parce qu'on en a très très peu d'éléments. Et ce qui est assez particulier, c'est que les grandes enquêtes qui ont été menées sur le handicap, notamment l'enquête handicap santé qui est la dernière en date, il n'y a eu aucune exploitation des données de cette enquête qui sont énormes sur la population 15-25 ans qui nous intéresse. Il y a eu beaucoup d'exploitations sur le troisième âge. Alors, ce sont des choses qui sont très intéressantes, qui sont nécessaires, mais aucune exploitation sur cette grande enquête concernant le public des jeunes. On sait, c'est le savoir un peu comme ça du sens commun, quoi. L'adolescence, c'est quasiment une pathologie, hein. Les adolescents, c'est compliqué. Les jeunes adultes, c'est compliqué. C'est encore plus compliqué aujourd'hui pour plein de raisons. Et cette population particulière des jeunes en situation de handicap est très, très peu renseignée sur ses caractéristiques propres concernant un certain nombre de difficultés qui pourraient faire face, etc., etc.
Cette revue de littérature, elle va servir à visibiliser, vous le disiez, à valoriser les recherches existantes. On va chercher à partager cette information avec le plus grand nombre, avec les parents. Ça aura, j'allais dire, marché, ça aura un impact concrètement, cette revue de littérature, si derrière le public, les institutions s'en emparent pour concrètement quoi ? Mettre en place de nouveaux outils pour juste prendre en compte cette donnée ?
Alors, à chaque acteur de le prendre en compte de sa manière et de son champ. L'important, c'est déjà qu'il y ait des champs différents qui discutent. Entre le champ associatif, le champ de la recherche, il y a parfois des intérêts qui peuvent être très proches, mais qui se rejoignent pas totalement. L'idée de cette revue de littérature, c'est qu'elle ne va pas avoir une forme de publication finale qui sera purement de la recherche, c'est-à-dire à publier dans une revue avec comité de lecture, etc., ce qui pourrait être l'une des pistes, mais pas la seule. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'elle puisse être accessible au plus grand nombre. Les parents, les acteurs de terrain, les professionnels, pour avoir des clés. Déjà, c'est intéressant d'avoir des clés un petit peu pratiques, de dire, tiens, il y a un article que je peux aller consulter, qui est librement consultable et dans lequel on va pouvoir me donner des choses. Mais aussi, pour nous, faire la promotion au niveau des associations, et notamment en premier lieu déjà celles qui constituent Droit au Savoir, de dire on a aussi en tant qu'acteur associatif la responsabilité de visibiliser des choses, et si on veut être pris au sérieux, il faut mener des études, il faut avoir des données quantitatives, qualitatives, il faut pouvoir mesurer un phénomène pour pouvoir le prendre en compte et pour pouvoir après éclairer les pouvoirs publics, mais aussi les forcer. C'est-à-dire que l'un des effets de l'enquête de l'UNISA, ça peut être rien, mais quand il y a eu un plan sur la prévention du suicide, il y a eu quelques lignes sur ce public particulier des soirées des malentendants. Quand il y a eu un plan sur la jeunesse, des lignes, un intérêt sur les soirées des malentendants. Le dernier plan de psychiatrie santé publique, de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, aujourd'hui, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on aimerait faire dans ce domaine-là, et surtout pouvoir mettre en lien les différents acteurs. Après, nous, on n'est pas propriétaire de la revue de littérature et des découvertes, etc. Au contraire, ça serait dans un esprit de partage au plus grand nombre pour que chacun puisse après agir dans son domaine.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
J'ai eu un gros accident de moto à l'âge de 17 ans. À cette époque-là, j'étais en BEP mécanique moto. J'ai quand même passé mon BEP 4 mois après l'accident. Non sans difficulté, parce que le délai a été court pour adapter l'examen à mon handicap. Je me suis retrouvé avec une seule main et une seule jambe. Après, j'ai fait un bac pro en dessin industriel. J'ai fait une formation de technicien d'études de systèmes mécaniques. Mais par exemple, pour mon bac pro, je me suis retrouvé en fait sans tierce personne. Pour faire du dessin industriel, donc à une main, à la règle et au crayon. Donc heureusement, j'avais développé mes petites techniques, hein, parce que ça va être le secret, je pense, pour tout type de handicap, c'est que vraiment, il faut s'adapter, il faut pas lâcher. Il faut se faire accompagner par des gens qui connaissent la filière. Dans l'entreprise, j'ai eu des débuts très difficiles. Ils savaient que j'étais travailleur handicapé, hein, puisqu'ils m'ont recruté comme ça, sur un forum en plan handicap. Mais entre la volonté de l'entreprise et les moyens qui y sont consacrés pour qu'on arrive à avoir un aménagement de poste, ça a mis un an et demi. Avec les collègues, il n'y a pas eu de sensibilisation de la part de l'entreprise. Avec la hiérarchie, ça a été compliqué à faire comprendre que voilà, que de prendre le train pour aller en formation, oui, c'était bien joli, mais que ça demandait une préparation, que tout ce qui était réunion comme ça, que si j'étais amené à venir en fauteuil, la salle n'était pas adaptée parce qu'il y avait des escaliers, et tout ça, ça n'avait pas été anticipé. Donc bon, ça reste compliqué, ouais, c'est sûr.
David, vous nous disiez à l'instant, on peut pas faire comme si on ne savait pas. Et pourtant, quand on entend des témoignages comme celui de Loïc Thomazet qu'on vient d'entendre, donc lui qui a 34 ans, aujourd'hui travaille dans une entreprise depuis 6 ans déjà, mais ça n'a pas toujours été simple pour lui. On se dit, on peut pas faire comme si on savait pas. En même temps, on a l'impression qu'au niveau de la sensibilisation, de tout ce qu'il faudrait encore faire pour que les gens fassent un peu plus attention à ces problématiques, il y a encore du boulot, quoi. On a l'impression qu'en fait, beaucoup de gens ne savent toujours pas.
Alors, il y a du boulot. Tout à l'heure, il était question un peu la volonté. Voilà. Là, on est dans un cas où, effectivement, il y a une volonté incroyable. Il y a eu des épreuves qui ont été franchies de manière exceptionnelle. Voilà, il a fait beaucoup de choses dans son parcours. Mais tout n'est pas simple et tout n'est pas linéaire. Et c'est vraiment un blocage qu'on a. Alors, moi, je connais plus la situation en France, mais de l'importance du diplôme, du premier diplôme, du premier emploi. Et c'est quelque chose qui marque énormément les gens. Et on a l'impression que si on loupe ça, on va louper tout le reste. Et là, le parcours de Loïc, c'est quelque chose qui est extrêmement fort dans la résilience, dans une capacité de rebondir. Voilà. Et en même temps, il dit il faut absolument être accompagné. Voilà. Et c'est là où on a un peu un hiatus entre autonomie et dépendance. Et les situations de handicap créent quand même des dépendances, ça peut être envers des tierces personnes, envers des services, envers des besoins particuliers, et ça c'est quelque chose qui n'est pas totalement bien intégré et qui peut amener un certain nombre de remarques, désobligeantes, voire même d'oubli, parce que ce n'est pas pris en compte. Alors aussi parce que c'est très peu visibilisé autour de nous. Alors peut-être pas nous ici, mais autour de nous, combien sommes-nous à côtoyer quotidiennement des personnes ayant des difficultés voilà, c'est une visibilisation à différents niveaux. Moi, je suis dans le domaine des études, de la science, etc., mais aussi au quotidien. Voilà. Mais je pense, alors, ce qu'on n'a pas comme retour, c'est toutes les personnes qui ont croisé son parcours tout au long de ces années, aujourd'hui, en retiennent sans doute quelque chose et vont avoir aussi un regard qui est changé.
L'expérience et de Loïc et de Myriam va servir effectivement pour d'autres qui viennent après. Alors, les témoignages qu'on a entendus, et de Loïc et de Myriam, ils ont été enregistrés le 18 octobre, parce que justement a eu lieu à Paris une journée d'études intitulée « Une orientation des parcours, accompagner les jeunes en situation de handicap dans leur choix ». Et c'est une journée qui a été organisée par l'association Droit au Savoir, en partenariat avec l'ONICEP. C'est une journée dans laquelle on a pu, notamment, en tout cas personnellement, découvrir des outils de lutte, tout ce qui existe. Je dis outils de lutte, c'est peut-être un peu fort, mais enfin c'est vraiment ça. C'est les brochures qui sont faites, c'est le partage d'informations, c'est tout ce qui est mis en place pour sensibiliser et continuer, parce que l'expérience suffit pas, mais le partage d'expérience, c'est aussi déjà un des leviers qui va permettre d'améliorer la situation.
Oui, tout à fait. Cette journée, Droit au Savoir organise chaque année une journée thématique. Et cette année, effectivement, on s'est focalisé sur les questions liées à l'orientation des jeunes en situation de handicap. C'était l'occasion à la fois de compréhension commune des enjeux, des problématiques, mais aussi d'essayer de trouver des pistes de solutions ensemble. Alors, c'est vrai qu'on a construit avec l'ONICEP et le CNIR des outils sur cette dernière année et demie. Un outil qui est un numéro de la collection « Pourquoi pas moi » de l'ONICEP, où vous pouvez d'ailleurs dedans retrouver les portraits notamment de Myriam et Loïc. Et l'idée de cet outil à destination de la communauté éducative dans son ensemble, les parents, les jeunes, les enseignants, les personnels administratifs, de direction, etc., c'est de montrer 12 portraits de jeunes en emploi ou plutôt sur la fin de leur parcours, et ils reviennent sur tout ce qui a pu les aider dans leur orientation. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important, y compris pour des jeunes qui se posent des questions, de pouvoir se projeter, de se dire que d'autres y sont arrivés, comment ils y sont arrivés. Voilà, c'est toujours un outil intéressant. Autre outil sur lequel on a travaillé, qu'on a construit, c'est un kit pédagogique pour l'école inclusive, donc là, plus à destination des enseignants, avec des propositions de séquences à faire avec les élèves en classe, dans une logique plutôt interdisciplinaire. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose mis à disposition avec des ressources, des liens, pour concrètement faire vivre le changement de regard dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Et puis, dernier outil, alors ça, c'est vraiment plus pour les participants à la journée d'études. C'est la deuxième année qu'on fait ça. On travaille avec une association qui s'appelle Arc-en-Ciel Théâtre, avec des intervenants comédiens, et qui permettent à la fois de construire des scènes qui sont présentées en l'occurrence l'après-midi, et puis l'après-midi de mener une séance publique où chacun des participants de la journée peut prendre une place dans la scène pour pouvoir agir, réagir et essayer de trouver des solutions ensemble. Et je crois que comme l'an dernier, ce dispositif a été plutôt apprécié des participants et participantes, mais y compris qu'il a permis de trouver des solutions qui peut-être juste dans un vis-à-vis ou dans une table ronde n'aurait pas été abordé.
A priori, ça a été effectivement plutôt un succès de la bouche même des personnes qui ont participé. On va écouter tout de suite le témoignage de Sandrine, qui est maman d'un jeune homme handicapé dyspraxique et qui est dans l'asso dyspraxique mais fantastique. Et le témoignage de Jean-François aussi à suivre, qui est lui papa d'une jeune fille handicapée de 21 ans. Et tous deux ont participé au Théâtre Forum lors de la journée d'études.
C'est la première fois que je participe à un théâtre forum. J'ai apprécié, ça me fait penser un peu aux mises en situation qu'on peut être amené à faire dans une association, justement, pour expliquer un peu les difficultés qu'on peut ressentir. Cette journée m'a apporté beaucoup de choses, notamment sur les échanges justement avec les autres parents avec d'autres types de handicap invisibles, en me confirmant ce que implicitement je savais déjà, c'est que quel que soit le type de handicap, les difficultés au niveau de la scolarisation restent pratiquement identiques.
Moi, je trouve que c'est un vecteur très, très, très intéressant parce que ça permet à tous les interlocuteurs de prendre conscience de ce qui est vécu, y compris nous concernant, de décloisonner parce qu'on se sent isolé par rapport à cette situation et on se rencontre. J'ai pu rencontrer des mamans qui, aujourd'hui, avaient des enfants qui étaient porteurs d'un autre handicap non visible également et qui étaient également dans la galère la plus totale.
Alors, ce qui est particulièrement intéressant, et ce que vient de dire Jean-François, c'est ça, c'est l'isolement et le décloisonnement. Et ça rebondit sur les propos de David tout à l'heure, qui disait, dans l'étude menée par vous-même, et plus globalement dans Droit au savoir, vous essayez justement de décloisonner, de faire se rencontrer et des parents et des jeunes qui ont finalement, malgré leurs différences, les mêmes problématiques et auxquelles on peut donc apporter, pas les mêmes solutions, mais en tout cas le même cheminement vers des solutions.
Et puis, ce qui est assez intéressant, là, on parle parents, jeunes, on essaye aussi vraiment de créer des interconnexions et des interactions avec l'ensemble des acteurs. L'an passé, sur le théâtre forum qu'on avait mené, on était plus sur des problématiques liées aux chargés de mission handicap des universités, par exemple, ou aux enseignants. Et du coup, ça va permettre aussi chacun de comprendre les problématiques de l'autre, hein, et puis de pouvoir échanger après en fonction de là où on est sur les pratiques des uns et des autres. Et je crois que ça, c'est aussi important, comprendre ces difficultés, pouvoir les partager, pas rester dans l'isolement et comprendre les difficultés de l'interlocuteur, de l'autre. Ça, c'est aussi quelque chose qui permet de créer du commun et de sortir par le haut de situations parfois complexes.
Oui, non, pour ajouter, décloisonner, je pense que c'était vraiment le mot-clé dans le témoignage. Marie-Pierre n'en a pas parlé, mais dans la brochure qui a été faite avec l'UNICEF sur les parcours, les entrées sont pas des entrées par handicap. Et là, de la même manière, ce qu'ont pu voir les parents, c'est que déjà les situations individuelles auxquelles ils sont confrontés sont finalement des situations qui sont collectivement vécues par un certain nombre de jeunes, et quel que soit le type de handicap. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était intéressant au niveau des parents. Alors moi, j'ai participé le matin avec les parents à la mise en forme de ces situations. Et c'est vraiment quelque chose qui était très intéressant. C'est-à-dire que on sort des situations individuelles et de l'enfermement dans lequel ça peut nous mettre vers quelque chose de complètement collectif. Et dans le retour l'après-midi, il y a aussi ce qui est intéressant, c'est le changement de place. C'est-à-dire que les personnes sont intervenues. On a eu un jeune concerné qui a pris la place du proviseur, me semble-t-il, ou du parent. Enfin voilà, c'est ce qui est vraiment très intéressant, c'est de pouvoir multiplier les points de vue pour sortir un petit peu de l'isolement de sa situation, l'isolement aussi de sa fonction, c'est-à-dire que moi en tant que parent ou en tant qu'enseignant, en tant que chargé d'accompagnement, etc., je suis un peu restreint par mon champ professionnel, mon champ de pensée, etc., et de se dégager. Et c'est vraiment un moment très intéressant où on peut avoir, on peut se construire soi-même, en fait, des visions différentes.
Ah, ce sera un petit peu le mot de la fin, parce que l'heure avance. Mais un mot, du coup, sur la revue de littérature encore. Elle sera disponible quand ? Où est-ce qu'on pourra la voir ?
Alors, il y aura un rendu qui va se faire le vendredi 19 janvier. On a une demi-journée organisée de restitution. Elle sera disponible sur le site de Droit au savoir sous différentes formes, une forme abrégée, une forme un peu plus complète.
Voilà. droitausavoir.asso.fr pour continuer la réflexion sur ces thématiques. Toutes les informations sont sur le site et aussi un tas d'outils et les brochures d'information à disposition qu'on recommande chaudement et aux parents et aux enseignants et à toutes les personnes concernées, donc un peu à tout le monde. Merci David Sauzet, merci Marie-Pierre Touban d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.
Merci.